Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur CFM Radio. Alors aujourd'hui, une émission spéciale parce que nous entrons dans un monde où le temps semble suspendu, vraiment, où le papier devient trésor et la feuille d'or magie. Voilà, j'ai trouvé les mots. Nous sommes dans l'atelier de Rolly Bidas, dans son atelier. Rolly Bidas qui est enlumineuse. Hein. On va parler de son stage qu'elle va bientôt animer au domaine de Séguéla, à Port-du-Quercy, dans le Lot. L'art de l'enluminure, eh bien, c'est une découverte de la feuille d'or, entre autres, hein, qui aura lieu du 2 au 6 mars au domaine de Séguéla. Alors, comme je vous l'ai dit, nous sommes ici dans son atelier. Alors, son atelier, ça représente quoi? C'est dans un grenier. C'est un peu un bric-à-brac, c'est sûr. Il y a un tas de choses que moi-même, je ne connais pas. Je suis en grande découverte. Il y a plein de choses qui sont étonnantes dans des petites boîtes ici et là. Bonjour Rolly.
Bonjour.
Alors Rolly, il faut qu'elle s'approche du micro. Alors, bonjour Rolly.
Bonjour Gilles.
Rolly, merci de nous accueillir dans votre atelier. Alors vraiment, il est personnel, hein. Ça c'est sûr, il est personnalisé. Ouais. Il y a même des cartons là-bas. À mon avis, ça n'a rien à voir avec l'enluminure, mais c'est pour l'emballage. Rolly, vous allez nous plonger donc dans l'univers des manuscrits médiévaux et de l'enluminure. Alors avant de commencer, il y a plein de gens qui nous écoutent et se disent « Mais c'est quoi l'enluminure exactement ?» Alors, on l'a répété X fois, mais la meilleure pédagogie, c'est la répétition.
Oui.
Qu'est-ce que l'enluminure relie ?
Alors, puisque je l'ai répété plein de fois à CFM, et bien maintenant je vais vous dire que l'enluminure, c'est l'ancienne BD, mais plutôt quelque chose de religieux. On va avoir des enluminures à partir du haut Moyen-Âge qui vont expliquer un petit peu les textes religieux. Et puis ensuite, ça va accompagner les textes. Et puis après, ça va être distinct du texte. Et puis après, il va y avoir de jolies enluminures faites par des artistes. Et ça va devenir tout un art. Alors l'enluminure, principalement, ce sont des belles images que nous trouvons dans des manuscrits avec une technique un petit peu ancestrale, même plus qu'ancestrale. Au départ, eh ben, on fait avec des plumes animales, du canard, des plumes d'oie. On utilise aussi des poils, comme le blaireau, le cochon, ça peut aussi. Et puis, tout ce qui est peinture, ça va être des pigments minéraux ou végétaux, et puis un petit peu animal, comme la cochenille. Et ça nous arrive, pas à moi personnellement, mais ça pouvait aussi arriver qu'on pouvait utiliser un peu de sang. Mais voilà, ça c'est, on dit.
De sang humain ?
Ou animal, ça fait une belle couleur rouge. Alors oui, il y a plein de choses bizarres en fait dans mon atelier, parce que c'est aussi le stock de mon site internet, de mon entreprise. Donc en fait, on va retrouver toute cette partie-là, en fait, sur la partie à droite de l'atelier, donc toutes sortes d'encres.
Oui.
Qui permet, parce que je fais aussi de la calligraphie, donc la calligraphie latine, donc il va permettre en fait de faire différentes calligraphies avec différentes couleurs. On va trouver des plumes, des porte-plumes, on va trouver des coffrets un petit peu historiques, comme le coffret Napoléon, comme le coffret du Moyen-Âge, donc trouver aussi des cires, parce que je travaille aussi, par exemple, quand quelqu'un me fait une petite commande pour un petit cadeau, il se peut que je mette un peu de cire avec un sceau personnalisé. Ce qui fait une finition en fait sur l'enluminure et sur la calligraphie. Il m'est arrivé de faire un petit texte calligraphié et une petite enluminure. Et puis j'ai fini par un petit sceau pour c'est un anniversaire de mariage, je crois. Donc j'utilise aussi de la cire multicouleur. J'ai aussi, tristement dire, j'ai de la cire aussi pour les cercueils, voilà. Et oui, j'en ai aussi. Puis, on va trouver donc différents seaux. Alors, j'ai des seaux en étain qui sont fabriqués par un potier. Il s'appelle le potier d'étain. Effectivement, il travaille beaucoup l'étain. C'est un artisan. Et en fait, j'aime beaucoup ces seaux parce qu'en dehors de l'artisanat, ils sont aussi très pratiques parce qu'ils sont en relief. Ce qui permet de, quand on fait une enluminure, une calligraphie, si on veut mettre ce petit seau personnalisé, ça fait un petit plus et c'est très sympathique. Ça fait une belle finition. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oui, là-bas, c'est très intéressant parce que j'ai plein d'encres naturelles. Alors, j'ai des encres végétales, principalement. J'en ai même qui sont fruitées. Et puis, j'ai des encres pour l'enluminure. Alors, ce sont des encres plutôt liquides qui sont faites à base de fruits et de plantes et qui permettent, en fait, de travailler un peu plus facilement sur certaines œuvres, d'avoir une encre un peu plus fluide, qui rentre un petit peu mieux dans le parchemin, qui est un peu plus foncé que mes propres encres que je fais avec du minéral. Et puis...
Mais une question qui me vient à l'esprit, moi, des encres végétales, il y en a une qui est plus simple que l'autre ou pas? Ou elles sont toutes pareilles à utiliser?
Non, c'est vrai, elles sont pas plus simples. Non, elles sont... On va avoir, par exemple, allez, la garance va être un peu plus compliquée à poser que la violette ou... que le fruit, par exemple, le fruit va être une encre qui va être plutôt être transparente, donc on va faire plutôt des lavis avec le fruit. Avec la garance, on va faire plutôt des aplats, donc quelque chose de plus foncé.
D'accord.
Donc je peux jouer. C'est intéressant votre question parce que c'est vrai qu'avec les différentes, alors on appelle ça des encres, hein, mais c'est vrai qu'avec les différentes encres, moi ça m'arrive, enfin, je jongle suivant en fait la base et les couleurs dont j'ai besoin, et c'est vrai que c'est plus facile de faire des transparences, des lavis, des aplats, parce qu'on peut jouer avec les couleurs pour donner tous ces volumes. Le dessin médiéval, en fait, on est vraiment ce qu'on appelle, enfin moi ce que j'appelle le 1D, c'est vraiment un dessin plat. Vous voyez, tout à l'heure je vous ai montré la perspective.
Ouais.
Là on avait un personnage central, ouais, qui était plus grand que le château qui était derrière, et finalement on voyait bien que la personne ne pouvait jamais rentrer dans le château. Donc en fait, ces perspectives-là, en fait, avec les couleurs, ça donne un joli reflet. Puis bon, ouais, c'est la technique du Moyen-Âge aussi, quoi.
Qu'est-ce que, pour quelqu'un qui n'a jamais touché un pinceau doré, quelqu'un comme moi par exemple.
Un pinceau doré.
Qu'est-ce qui est le plus fascinant dans l'art de la l'enluminure pour un débutant?
Ben alors ça dépend des personnes. Parce que là, moi, je voyais, je sors d'un stage de 5 personnes. J'avais une personne qui peint des tableaux. Et je l'ai vue tout de suite dans sa gestuelle, en fait. Elle avait cette personne avait un geste très facile. Elle avait tout compris, en fait, comment poser l'enluminure, comment poser les pigments. Parce que ce n'est pas de l'aquarelle. Donc si on mouille trop, ben, on n'a pas de pigments. Et si on mouille pas assez, on dit qu'on est à sec chez nous. Et donc, du coup, ça fait des traits. C'est très, très moche. Et puis, ben, il y en a, c'est le dessin. Il y en a, c'est doser, savoir doser son pigment. Il y en a, c'est l'application. Ça dépend des personnes. Mais si je relève les difficultés que j'ai ressenties lors du stage dernier, de la semaine dernière, eh ben, c'était assez varié. Je pense, quand même, entre le dessin, l'application de la peinture par le pigment, et majoritairement, c'était ça le problème.
Moi, je m'attendais, en arrivant dans un atelier d'enluminure,
d'avoir le bazar, c'était avant que vous arriviez.
Pas le bazar, je m'attendais à avoir des odeurs, et en fait, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas, parce que pour l'instant, les pigments sont rangés, et c'est vrai que quand on sort... Les pigments qui sont faits à base de miel, de gomme arabique et de blanc d'œuf, au bout d'un moment, ça sent, oui.
Le blanc d'œuf, oui.
Oui, ça sent. Et ça, parfois, ça met mal à la tête. Et puis, quand on applique de l'or en feuille, moi, j'utilise ce qu'on appelle la gomme ammoniaque, qui est juste derrière vous, là.
Ah oui.
Le petit pot.
Celui-là ?
Oui, voilà, tout à fait. Voilà, ça, si vous l'ouvrez, secouez-le un tout petit peu.
Je l'ouvre.
Alors, il va tester.
Je l'ouvre, on va tester. Est-ce qu'on entend le bruit ? On entend le bruit en plus, alors. Ah ouais, oui, ça sent, ouais. Ah ouais, ça sent fort. Hein.
Oui, c'est une racine, hein. C'est juste une plante. Hein.
Non, on s'y habitue.
Oui, oui.
Donc on s'y habitue. Alors,
là, ça va, parce que je suis toute seule, je peux ouvrir avec mon Vénux, mais quand on est plusieurs personnes à utiliser cette...
Comment ça s'appelle, ça ?
De la gomme ammoniaque. Il n'y a pas d'effet nocif. Bon, ça sent un peu fort, ça peut donner un peu mal à la tête.
Mais souvent... si j'en prends un autre au hasard, il y aura une odeur aussi ?
Allez-y.
Par exemple, tiens, celui-là.
Allez-y.
Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Alors, avec mes petits yeux,
j'ai
là.
J'ai pas mes lunettes, je peux vous aider.
Bon, il y a marqué violet, calligraphie violet.
Oui, alors allez-y, ouvrez.
Alors, donc c'est un petit pot, effectivement, dedans il y a un liquide violet. C'est joli, hein, à l'œil c'est sympa, je l'ouvre. Et là, une expérience, attention, je vais sentir. Ah, j'aime. Ah oui, j'aime.
Ah, c'est peut-être une encre parfumée, parce que je note pas tout.
J'aime, on devrait même la boire presque.
Ouais,
peut-être pas la boire,
non,
mais...
Non, on va y
Non, j'aime, c'est
alors, c'est vrai qu'elles ne sont pas dangereuses, hein. Toutes ces encres, elles ne sont vraiment pas...
Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est tout petit.
Il y a 30 millilitres dans un flacon comme ça.
Et ça dure longtemps, en plus, j'imagine.
Oui, n'imaginez pas, oui, ça dure quand même assez longtemps. Bon, après, ça dépend aussi de l'intensité de l'écriture, ça dépend de plein de choses, ce qu'on fait avec.
Je suis curieux, hein. Je peux poser une autre question. Qu'est-ce que c'est que ça, là?
Ah, ça, c'est...
Je prends
vous êtes curieux, effectivement.
Ça, je prends au hasard. Alors, c'est de la céramique, non?
Oui, alors c'est vulgairement une plaque de céramique à carrelage hein, que je mets des tampons de chaise derrière. Et en fait, là, vous avez un ocre jaune.
D'accord.
Donc, c'est une poudre d'ocre jaune qui est mélangée avec du blanc d'œuf, du miel et de la gomme arabique. C'est molleté avec une petite molette en verre qui permet en fait de broyer le pigment le plus finement possible, si je peux dire, et ça donne l'effet peinture. C'est avec ça que je peins.
Ah bon? Mais c'est un support en fait alors, c'est comme un support, non?
Oui, c'est parce que la plaque, les plaques céramiques, c'est, vous voyez, je les range, je les mets à l'abri en fait de la poussière. Et ça, je peux le ressortir dans 6 mois, dans 8 mois, ça fonctionne encore.
Alors, j'aimerais vous décrire, parce que là, à ma gauche, là, il y a un meuble dessus, il y a un fouirfouir de stylos, de crayons. Je n'utilise même pas, moi, tout ça. Il y a même il y a un tas de choses. Derrière, il y a des dossiers. Alors, apparemment...
Ah non, ce ne sont pas des dossiers, c'est du papier spécialisé.
Oh! C'est-à-dire du parchemin, vous voulez dire?
Alors non, le parchemin est soigneusement rangé à l'abri de la poussière et de l'humidité.
Ah oui.
Voilà. Là, vous avez... Alors, je vais le chercher.
Allez-y. Alors, on va chercher. Il y a plein de choses là, qui est assez volumineuse d'ailleurs. Mais malgré ce petit bric-à-brac, tout est rangé quand même. Hein. Et elle trouve tout de suite. Hein. Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais alors, bon.
C'est pas loin, on est tout près, mon petit atelier est petit. Donc là, je vous présente un papier velin de coton.
Un papier velin de coton.
Voilà, c'est plutôt un papier d'écriture où on peut l'utiliser aussi sur l'imprimante. Et en fait, c'est un papier qui est très doux. Hein. C'est une vraie peau de bébé. Je vais vous faire toucher, puisque vous êtes curieux.
Mais dessus, c'est pour crayonner
On écrit. Vu la qualité du papier, je vous garantis qu'on...
Ah oui, c'est épais hein, déjà.
Pas, hein, quand même,
hein. Ah oui, c'est épais, oui. D'accord, mais ce genre de support...
Alors lui, il a 220 grammes, en fait, et ce genre de support donc, peut passer en imprimante, ou tout simplement, on peut calligraphier, écrire avec un stylo classique,
d'accord,
ou calligraphier avec une plume et un porte-plume. Par contre, le rouge de Caroube, c'est un rouge qui est quand même assez liquide, et en fait, ça diffuse. Donc, c'est pas génial sur ce genre de papier. Parce que certaines encres n'est pas forcément adaptées à tous les papiers. Enfin, en tout cas, chez moi.
Ah. Ouais. Il y en avait d'autres, là, j'ai vu.
Oui.
On va les voir. Ah oui.
J'ai sorti mon petit trésor.
Alors, là, c'est un peu plus petit.
Un papier de coton. Alors oui, c'est un papier 18 par 24, mais j'en ai des grands. Hein. J'ai taille grande et taille petite. Et donc, je vais vous faire toucher. Alors, vous avez les mêmes propres. Hein.
Oui, j'ai les mêmes propres.
Hein. Ouais. Voilà. Ah, ouais. Donc ça, c'est un papier pur de coton. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que du chiffon de coton.
On s'en sert pour quelle utilité, en fait?
Alors, on peut peindre dessus.
Ah ouais.
Et on peut... Alors, on peut peindre dessus, mais... Et j'ai certains artisans qui me l'achètent pour faire du packaging. Donc, on peut le mouler en le mouillant aussi.
Mais, pardon, hein, mon incrédulité, mais quand on met de la peinture dessus, ça fait pas comme un buvard, ça boit pas la peinture.
Après, on peut mettre un après, qui permet aussi de bien isoler la peinture du papier.
Ah ouais.
Mais moi, je l'ai testé avec plusieurs encres, ça marche très bien. Par curiosité, ouais.
Mais écoutez, on apprend plein de choses aujourd'hui. Moi, je suis curieux de tout ça. Je découvre aussi,
et
comme
là,
vous, auditeurs.
Vous avez un indigo.
Un indigo.
Fait, en fait, alors vous allez le voir, il est un peu plus cartonneux.
Oui.
Et en fait, vous savez ce que c'est, un indigo?
Oui, bien sûr. Oui.
C'est une racine, ça donne cette couleur bleue. Et on en utilise beaucoup en enluminure, l'indigo. En
c'est
fait,
bon.
Beaucoup. Et en fait, en enluminure, il va tirer un petit peu plus vers le noir. Mais il restera bleu. Mais comme un bleu foncé, vous voyez, un bleu... Donc vous voyez, il est un peu plus épais, il est un peu plus cartonné, parce que l'indigo, ça a tendance à rigide.
À devenir rigide.
À rendre rigide le papier de coton qui est en dessous.
Mais là encore, c'est un support pour quoi faire exactement?
De la peinture, du packaging.
De la peinture,
oui. Vous savez, des petites figurines aussi, ça marche très bien, les figurines avec...
Ouais.
Alors, moi j'ai des...
Alors,
principalement...
Par moment, j'approche le micro parce que c'est pas grave.
Je le vends avec des artisans qui peignent dessus. Il y en a qui font de l'or,
ouais,
de la peinture blanche, du packaging pour emballer des savons. Et puis, en fait, c'est des papiers qui se plient facilement. Alors tout ça, c'est de l'artisanal. Et puis là, on a Verger de France.
Celui-là, on dirait un bloc-notes classique.
Alors ça, c'est un bloc-notes classique, mais ça fait partie des papiers classe. Ah. De la correspondance.
Berger de France.
Ça peut être une correspondance amoureuse. Ah. Ou
ça peut une servir.
Ou une lettre de remerciement.
Ah oui. En fait.
C'est un papier qui est assez épais, qui est strié.
C'est ce que utilisent beaucoup les candidats municipaux en ce moment pour leur colistier.
Je sais pas ce qu'ils utilisent. Alors, par contre, il va falloir que je bouge parce qu'il faut aller chercher.
Allez, allez-y, bougez.
C'est la paire de ciseaux, là.
Elle a une paire de ciseaux.
Oui, on va l'ouvrir. Pour l'or, une paire de ciseaux.
On va l'ouvrir.
Voilà, pour le papier, une paire de ciseaux, voilà. Parce que des fois, il ne faut pas salir avec les ciseaux, on peut salir.
Ah.
Donc voilà. Donc oui. Celui-là, je vais vous le montrer aussi.
Alors, on le décrit, alors, donc ça ressemble à un bloc-notes classique.
Je ne vais pas vous les défaire parce qu'il y a un embossage au milieu. Un petit embossage au milieu, je ne sais pas si vous l'avez vu.
Ah oui.
Voilà.
Ah, c'est beau, hein. Franchement, alors,
donc
c'est
ça,
beau.
C'est vraiment le papier classe de correspondance. On écrit, puis j'ai les enveloppes qui vont avec.
Ah, c'est original, je ne connaissais pas ça, mais c'est original, c'est joli.
Les petites enveloppes qui vont avec.
Ah, qui vont avec, ah bah oui.
En papier de en coton, voilà, pareil.
Si on parlait un peu de ce stage qui va se dérouler, je vous rappelle, du 2 au 6 mars au domaine de Séguéla, donc pendant 5 jours, vous allez enseigner, c'est-à-dire votre passion, ouais, c'est votre passion, votre art, votre passion.
Et mon métier.
Et votre métier, bien sûr, évidemment, faut pas l'oublier, hein, vous n'êtes pas bénévole, hein, vous en vivez. Hein. Ce stage du 2 au 6 mars qui se déroule au domaine de Séguéla à Porte du Quercy dans l'Hôte, va durer 5 jours seulement, je dirais, seulement 6 participants. Pourquoi 6 participants, c'est trop
parce
long.
Parce qu'il faut s'occuper de tout le monde, Gilles.
Ah ouais. Ah ouais.
Il faut s'occuper de tout le monde, entre le dessin, l'application du dessin, la correction du dessin, l'explication. En plus, moi, le premier jour, je fais un cours théorique pour montrer un petit peu tout ce qu'il faut faire pendant ces journées-là. Il y a une explication de vocabulaire, il y a aussi un petit cours historique, mais qui barbe pas tout le monde.
Donc ça dure effectivement 5 jours, 5 jours entiers.
Oui.
On peut manger sur place, on peut dormir sur place si on le souhaite. C'est ouvert à tout le monde, principalement aussi aux débutants, j'imagine. Mais s'il y a des débutants et des gens qui sont un peu plus confirmés, c'est pas grave?
Non, c'est pas grave, surtout que là, c'est un stage de pose de feuille d'or.
D'accord.
Donc en fait, j'ai préparé des petits sujets. Donc ça sera de la feuille d'or, ce qu'on appelle de la feuille d'or adhésive. Donc c'est une feuille d'or donc, qui n'est pas autocollante.
Ouais.
Mais qui est posé simplement sur une feuille de soie. Ça permet de stabiliser la feuille et puis surtout quand on est moi c'est comme ça que j'ai débuté en fait. Les premières manipulations de la feuille d'or qui est sur feuille adhésive sur feuille de soie, c'est beaucoup plus facile parce qu'on découpe la feuille de la forme ou de la dimension qu'on a besoin et puis c'est plus facile de la poser voilà, c'est plus facile, les premières manips sont plus faciles. Mais il y a toujours cet effet de poser l'assiette, de réactiver l'assiette avec le souffle, un souffle pour chauffer, réchauffer en fait l'effet colle de la gomme ammoniaque ou de la colle de poisson ou de la détrempe, peu importe, hein, ou du gesso aussi. Alors le gesso que nous on fait pour la feuille d'or et on pose la feuille d'or et voilà, on essaye que ce soit régulier, qu'il n'y ait pas trop de décalage, pas de dentelle. Parce que des fois, vous savez, quand on a une feuille d'or et puis voilà, il peut manquer des petites feuilles sur le côté et puis du coup, quand on va cerner après, c'est-à-dire quand on va faire des traits définitifs après, il va en manquer, donc du coup, il va y avoir des petits trous, quoi.
D'accord.
Et puis on scanne aussi la feuille d'or.
Ah aussi.
Ah oui.
Alors, autant que je sache, vous faites un stage ou deux stages par an?
Alors, normalement, deux stages par an. Mais là, j'en suis déjà à mon deuxième.
Deuxième stage par an. On va quand même.
Là, ça sera trois cette année.
Tous ceux qui nous écoutent et qui auront envie de découvrir dans les Minures, il faut préciser que les repas du midi et du soir éventuellement et le gîte, ils sont réglés directement au domaine de Séguéla.
Mm-hmm.
Par contre, vous, les cinq jours, c'est quoi à peu près les tarifs? On peut avoir une idée ou pas?
Alors, c'est toujours l'handicap que j'ai. Je sais que je mets des tarifs, mais en fait, j'ai jamais un souvenir. Alors, c'est entre 435 et 480-95 suivant en fait le matériel.
D'accord.
Notamment, là, c'est un petit peu plus cher puisqu'il y a de la pose de feuilles d'or et qu'il y a toute une préparation à faire par rapport à ça.
D'accord.
Donc, ça, c'est une fourchette, ouais.
Bon, ça comprend donc le matos, hein, bien
sûr.
Ah
oui, par contre, l'élève, si je peux me permettre, repart avec son matériel, repart avec son chef-d'œuvre. Il a tout lui appartient après. Hein.
D'accord.
Je ne reprends rien, sauf ce que je prête, mais ce que je prête, je le dis, je prête. Mais sinon, le reste, c'est leur matériel.
Alors, c'est dans un lieu qui est sympathique, que moi je connais aussi, hein, c'est un lieu très calme, qui se prête totalement à ce genre.
On peut y venir en chaussons si on veut.
Oui, oui, il y a même une cheminée en plus.
Oui, tout à fait.
C'est très calme, c'est silencieux, ça s'y prête vraiment. On est dans un écrin de verdure, c'est le terme, autour, c'est très joli.
C'est un endroit qui a une belle onde positive.
Oui.
Moi qui suis sensible aux ondes, franchement, c'est une belle énergie.
Alors, on parle bien sûr du domaine de Séguéla pour ceux qui ne connaissent pas. Dernière question, Aurélie Bidas. Y a-t-il des erreurs fréquentes qui font sourire vos élèves? Quand il faut des erreurs et ça les fait sourire ou pas?
Non, arrêtez ces modes catastrophiques. Non, non, j'ai des élèves qui s'y prennent tellement au jeu. Que certaines personnes pleurent.
Non.
Si, je vous garantis que si.
Et ils mettent tant d'énergie qu'ils en pleurent à la fin.
Donc oui,
si c'est pas réussi.
Ils s'énervent, ils quittent la pièce, ils sont en mode catastrophe, j'y arriverai jamais, c'est au-dessus de ce que je peux faire, c'est trop difficile, etc. Donc on est obligé, quand on fait de l'animation comme ça, quel que soit, je pense, le métier, ça peut arriver que les élèves, en fait, sont sensibles. Et il faut absolument tout dédramatiser. Dire qu'ils sont là en apprentissage, qu'ils ont que 5 jours pour réaliser cette œuvre, que c'est pas grave s'ils n'y arrivent pas, que le but c'est de comprendre, de la compréhension en fait de l'enluminure. Et c'est vrai que l'enluminure c'est difficile. C'est pas de l'aquarelle, c'est pas de la gouache, c'est pas de l'huile. Ça ne s'applique pas du tout de la même manière. En dehors du dessin qui est complètement différent, parce que moi je dis qu'on est dans le 1D, regardez les dessins mérovingiens, quand on a les yeux qui sortent des oreilles, quoi.
Donc voilà.
Oui, voilà. Donc c'est souvent déjà, je me dis, mais bon, j'espère que je vais pas avoir de dames qui vont pleurer ou de messieurs qui vont s'énerver ou voilà. Je me rends compte que dans l'enluminure, et c'est marrant parce que ça rejoint exactement la question qu'on avait il y a 2 jours avec mes élèves. L'enluminure n'est jamais terminée. L'ennemi du bien chez l'enluminure, c'est que parfois on veut corriger et on fait le geste de trop on fout en l'air ce qu'on a corrigé, quoi. Ou ce qu'on n'a pas corrigé, encore pire. C'est-à-dire que, par exemple, on a voulu corriger une petite partie d'or et puis la dame, elle a fait un geste de trop. Donc au lieu de laisser cette petite partie pas très claire, elle a agrandi, en fait... la bêtise, entre guillemets, quoi. Moi, par contre, pour ma part, c'est que quand je fais une enluminure, que j'y passe à peu près entre 35, 60, 70 heures, il y a des enluminures où j'ai 200 heures dessus. Au bout d'un moment, je laisse l'enluminure pendant 2, 3 jours, 4 jours. Je ne la regarde pas. Je passe devant. D'ailleurs, dès qu'elle est sèche, je l'enferme. Hop, je la mets au fond du placard. Je ne la regarde pas pendant quelques jours. Et après, je la ressors. Parce qu'en fait, le regard, il est tellement habitué qu'on ne voit plus rien.
Eh oui.
Donc, du coup, je laisse passer du temps. Et après, je reviens et je la regarde à travers la vitre, à travers la lumière. Je la regarde tout près, je la regarde de loin. Et là, je redécouvre l'enluminure et je me dis, là, il y a un problème. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça vaut le coup que je corrige? Est-ce que ça vaut le coup que je laisse comme ça? Et puis, en fait, comme c'est quelque chose qui sort de nous-mêmes, il n'y a pas de conducteur du bien ou du mal, ou
c'est bien fait.
Ou c'est pas bien fait. C'est juste une satisfaction personnelle, en fait.
Ouais.
Alors, dans les copies, si on a mal copié, c'est sûr qu'on va le voir tout de suite, on va pas être content. Mais dans la création, ou ouais, plutôt dans l'imaginaire ou dans la création, enfin, moi, je crée pas mal, quand même. Je refais des reproductions, pas forcément des copies, des reproductions. Donc, je m'autorise, en fait, cette petite touche personnalisée. Il n'y a pas de loi, en fait. C'est pas bien ou pas bien. Je suis pas en copie. Là, si je suis en copie, oui, effectivement, c'est clair, net. Je dois suivre les règles. Il n'y a pas de problème. Je dois pas en déborder. Mais bon, après, c'est une satisfaction. Et tout à l'heure, je voulais revenir que l'enluminure aussi, c'est une sorte de méditation. C'est quelque chose où on se pose, il n'y a plus rien. Normalement, en fait, quand on est devant son enluminure, je ne sais pas les autres artistes comment ça se passe, mais moi, je sais que quand je suis ici et que je suis là et que j'ai mon enluminure, vous pouvez m'appeler en bas. Je ne répondrai pas. Je ne suis pas là. Vous n'existez pas.
Le téléphone sonne, il peut toujours sonner.
Il peut toujours sonner. Le monde peut s'écrouler. Et en fait, c'est ce que j'essaye aussi de mettre en position quand j'ai mes élèves, être dans votre bulle. C'est votre moment à vous de créer.
Eh bien, Aurélie, ils y seront dans leur bulle, le domaine
oui,
de Séguéla. Le domaine s'y prête parfaitement. Merci beaucoup, Aurélie.
Avec plaisir.
Merci, Aurélie, donc, pour cette plongée dans un art où vraiment, où chaque feuille d'or raconte une histoire. Eh bien, pour nos auditeurs intéressés, donc, le stage, l'art de l'enluminure, découverte de la feuille d'or, se tiendra, je vous le rappelle, notez bien, du 2 au 6 mars prochain au domaine de Séguéla. Avec un maximum de 6 participants, ne tardez pas pour un accompagnement privilégié. Vous pourrez vous inscrire bien sûr et découvrir toutes les informations sur le site de domaine de Séguéla.com. Encore merci Aurélie pour votre passion et ce voyage hors du temps. Mesdames, messieurs, à bientôt. Au revoir.